7h17, bonjour Pierre-Yves.
Bonjour Paul.
Alors, on commence ce matin par les mesures annoncées hier par le président Trump, c'est-à-dire d'imposer des tarifs, évidemment, très élevés, jusqu'à 25 % là, sur l'acier et l'aluminium. Et tout ça en réponse, semble-t-il, à l'échec des négociations pour le renouvellement de l'accord de libre-échange. On a appris que c'était un coup de fil du vice-président Pence au premier ministre Trudeau qui a fait que M. Trudeau s'est jamais rendu à Washington pour aller peut-être finaliser le deal.
Oui, parce que en fait, si on écoutait l'histoire de Donald Trump, on se rend compte que lorsqu'il faisait affaire, par exemple, il y a un avocat, pas un avocat, mais il y a un architecte qui a témoigné, il dit « Donald Trump, c'est pas compliqué sa façon de faire. Tu fais une entente avec lui, et lorsque c'est le temps de régler des détails ou lorsque c'est le temps de se faire des paiements ou donner des choses, il change les clauses puis il joue au plus gros. » Donc, il va dire « Ben, de toute façon, je suis plus gros que toi, donc tu vas faire ce que je veux. » Et on dirait qu'il joue cette méthode-là d'affaires du gros méchant, mais en politique. Là, il dit « Je veux une clause crépusculaire. » Donc, en somme, c'est qu'on veut que les Américains puissent, puis le Canadien, en fait, au bout de 5 ans, l'entente tombe, l'ALENA tomberait si jamais il n'y avait pas de nouvelle entente ou de renouvellement de l'entente. Mais mettez-vous à la place d'une PME au Québec ou d'une entreprise qui a des centres d'affaires des deux côtés de la frontière. On vous dit, écoutez, les règles du jeu ne sont pas établies pour une longue durée. C'est 5 ans, puis c'est renouvelable si on le veut, sinon ça tombe. As-tu pensé à chaque 5 ans comment tu es menacé dans tes investissements? Donc, comment faire un investissement sur 5, 10, 15, 20 ans quand au bout de 5 ans, à chaque fois, tu as une menace d'avoir une espèce de combat de coq entre deux premiers ministres canadiens-américains sur une clause de fin d'entente? Et c'est là que ça fonctionne pas. Présentement, le libre-échange, c'est quoi? C'est qu'on a une entente qui est ouverte et qui peut être résiliée en fonction d'un préavis, mais il n'y a pas de date butoir. Et si on veut imposer ça, c'est comme dire à chaque fois, on va renouveler une convention collective syndicale, donc on s'impose à quoi? On s'oppose on est proche d'avoir, par exemple, une opposition et une espèce de grève, si tu veux, d'un pays ou de l'autre sur l'entente. Donc, c'est très, très mauvais au niveau des relations d'affaires parce que des deux côtés, on est des partenaires. Tu sais, on n'est pas des opposants. On n'est pas « je vais gagner la négociation, tu vas perdre ». Faut trouver un juste milieu où nos avantages comparatifs à chacun au niveau du commerce sont valorisés et où on n'est pas trop perdant.
Non, oui. Mais c'est sûr que si tu as une entreprise, puis tu te dis, est-ce que les règles vont changer dans 4 ans, 5 ans, puis là, de nouvelles règles, puis après ça, ces mêmes règles-là vont changer 5 ans plus tard. Là, ça devient complètement dingue.
Bien, imagine quand t'es rendu, je sais pas, moi, t'es en 2020, puis par exemple, l'entente, je sais pas moi, arriverait à terme en 2021. Tu te dis, bien là, je vais retarder mes investissements d'un an pour être sûr que l'entente ait lieu. Et moi, je dois faire un investissement financier, des fois, c'est sur 10, 15, 20 ans, là. T'achètes une machinerie, t'achètes du développement pour amortir des coûts sur plusieurs années. Donc, tu peux pas jouer sur 5 ans tout le temps. C'est pas des vendeurs de bonbons, là. T'sais, quand tu mets en place une usine avec des pièces d'un côté de la frontière puis de l'autre côté de la frontière, puis qu'on joue avec certaines règles comme le prix du métal, imagines-tu qu'est-ce que ça a comme impact sur ta production?
Bien sûr. En tout cas. Ah bon, parlons maintenant des fameuses retombées économiques.
Ah. J'aime ça, Paul, moi, les retombées économiques. Chaque année, les festivals ou peu importe, les grands événements nous sortent des analyses de retombées économiques. Et là, ils se raffinent. Parce que là, on dit, ah, faut faire attention maintenant, on a trouvé une méthode que le gouvernement veut pour calculer les retombées et nous avons fait un calcul sérieux avec une firme KPMG. C'est une firme comptable que je respecte beaucoup, c'est une grande firme mondiale, mais KPMG fait le travail qu'on lui demande, c'est-à-dire qu'on met en place des critères de calcul de retombées économiques et on les calcule en fonction de ça. Et là, on nous dit que les événements génèrent 291 millions, c'est le fun, mais, tu sais, on dit oui, mais tout touriste ou citoyen qui se déplace de 40 kilomètres, c'est une retombée économique. Bon, mais Paul, mettons, je me rappelle moi, là. J'étais tout jeune, j'étais parti de Valleyfield, puis j'étais monté à 12 ans en autobus voir les expos. Oui, dans ce temps-là, on pouvait voir les expos. Je suis parti de Valleyfield, qui était à 60 kilomètres et quelques à l'époque de Montréal. Donc, 60 km, je dépasse le 40 km, je suis allé dépenser à Montréal pour le billet de baseball et je suis revenu à la maison. Mon 10, 15, 20, 30 $ que j'ai dépensé à l'époque, je l'ai dépensé à Montréal cette fois-là. Mais j'aurais pu le dépenser à Valleyfield, j'aurais pu aller au McDo, j'aurais pu aller m'acheter un sandwich. Donc, dire que c'est une retombée économique nationale, il faut faire attention, c'est un déplacement d'économie. C'est un déplacement de dépenses. Mais ça ne fait pas une retombée économique quand ça ne vient pas de l'extérieur pour le Québec. Pour le Canada, c'est la même chose. C'est une retombée économique nette quand quelqu'un part d'Ottawa à Québec, non, mais quelqu'un part des États-Unis au Québec, oui. Donc, on nous dit que 54% des retombées viennent des touristes extérieurs. Ça, c'est parfait. C'est des vraies retombées économiques. Et sur le RIMI, le regroupement des festivals, on a choisi 17 événements sur 27. Donc, si on prenait l'intégralité, ça serait un petit peu plus juste. Mais là, mettons que je suis une usine dans une petite ville, puis je crée des emplois. Est-ce que je vais sortir une analyse puis dire que je génère des retombées économiques puis qu'on doit me subventionner? C'est toujours ça le défi de dire qu'est-ce qui est digne, pas digne, mais qu'est-ce qui est nécessaire de subventionner, qu'est-ce qui l'est pas. Quelle est la marge de profit de chacun des producteurs, de chacun des grands événements?
Non, mais toi, tu disais cette semaine avec Evenco, là, le fait qu'ils retrouvent entre leurs mains les gros événements là, au Cheyaga, le jazz, les franco, puis maintenant, juste pour rire, peut-être des économies d'échelle pour l'employeur, là, pour le propriétaire.
Une concentration aussi, as-tu pensé? Tu veux, mettons, aller sur l'île Sainte-Hélène, oh, c'est Evenco qui a le droit là-dessus. La place à Laval, ah, c'est Evenco. Le Centre Bell, ah, c'est Evenco. Les festivals, ah, c'est Evenco. Ça commence à faire beaucoup d'Evenco, tu sais, au niveau du risque du Québec.
Mais on est obligé est-ce que ça devrait pas forcer les gouvernements à revoir les politiques de subvention?
Peut-être un calcul.
En tout cas,
parce que si Evenco fait une économie d'échelle, ça veut dire qu'il y a moins de dépenses. Ça veut dire que les subventions peuvent être moindres. Je pose la question, on jase, là. Moi, si vous me demandez une subvention, je veux voir les états financiers. Moi, je suis comme ça. T'sais, soyons transparents. Envoie-moi tes états financiers et ta marge de profit de toutes tes sociétés associées, vraiment, avec tes événements et tes états financiers, puis on va regarder comment tu n'arrives pas puis pourquoi on a besoin de subventionner ton événement. Et là, on va donner une subvention qui a un sens. Mais donner une subvention en fonction de l'événement et ne pas être critique envers les états financiers, c'est quand même spécial parce que quand on commence ça, il n'y a pas de fin.
Bon week-end, monsieur.
Salut.
Salut, il est 7h24.